À voix nue. Cette semaine, Frédéric Saïs rencontre Claude Angéli. Ce soir, dans les coulisses du Canard Enchaîné.
Bonsoir Claude Angéli.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir pour ce troisième épisode dans les locaux du Canard Enchaîné, l'hebdomadaire où vous travaillez depuis 1971. Depuis près de 50 ans, le journal a sorti des dizaines d'affaires, comme l'on dit. Les feuilles d'impôt de Jacques Chaban-Delmas, les diamants de Bocassa qui nuiront à Valéry Giscard d'Estaing. Plus récemment, les emplois fictifs reprochés à François Fillon et à son épouse. Le cliché journalistique veut que vous ayez fait trembler la République, en tout cas trembler ceux qui la servent ou qui aspirent à la servir. Vous nous avez raconté hier la naissance de votre vocation journalistique, votre arrivée à l'hebdomadaire satirique, Claude Angéli. Quel a été votre premier scoop au Canard Enchaîné?
Un jour, il y a un type qui est venu et qui avait en main la feuille d'impôt de Chaban-Delmas où il payait des impôts. Mais il payait des impôts très modestes, ceux d'un médecin de campagne, vous voyez. Chaban était Premier ministre. Son courrier de la rue Blanche, son appartement, était détourné vers Matignon et il arrive au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, au courrier, il y a un type qui est plutôt à gauche et qui voit Chaban-Delmas, impôt fiscal, ou je sais pas quoi à l'époque il y avait, il met ça dans sa poche, il va l'ouvrir, il découvre la feuille d'impôt, il dit à un de ses copains, tu portes ça au canard. Celui-là, type, me montre ça, je pense que c'est très bien, je comprends pas très bien, je me ferai expliquer. Et je vais à l'Observateur qui était rue d'Aboukir à côté, je dis au type, vous écartez un peu là, je vais faire une photocopie. Et le canard était mal équipé, il avait même pas une machine à photocopier pour dire. Il se demande ce que c'est, je prends la photocopie et je reviens, et je retrouve le gars, je lui ai dedans. Et pour me faire expliquer, je vais au syndicat unifié des impôts. Et je lui montre la photocopie, je lui dis, vous pouvez m'expliquer? Ah, il me dit, il y a des progrès. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il y a des progrès, quoi. Bon, je comprends qu'il se passe quelque chose. Alors, on publie cette feuille d'impôt, c'est Roger Fressos qui fait l'article, il se moque de Chaban, tout ça, mais la modicité de l'impôt. Et je retourne voir le type du syndicat, j'ai dit, bon, maintenant que c'est paru, parlez-moi un peu. Mais il dit, ben avant, il n'en a pas payé pendant 4 ans. C'est un truc absolument extraordinaire, parce que c'est légal, mais alors ça fait un foin du tonnerre. Et on nous accuse, alors là, carrément, c'est les Giscardiens qui ont des seuls au canard. Ce qui est faux, totalement.
Les Giscardiens qui, à l'époque, préparaient l'essor de leur champion contre le camp Chaban-Delmas.
Voilà. Et c'est faux. Et d'ailleurs, un jour, on explique quel est notre informateur. Ça n'empêchera pas, encore demain, on dira, les Giscardiens ont filé ça au canard. C'est un scoop intéressant, amusant. Et surtout, ça fait beaucoup parler. Quand dans les restaurants, dans les cafés et tout, on commence à plaisanter sur les impôts de Chaban, vous avez gagné. Quand Chaban ne sera plus chef du gouvernement, il voudra aller en Chine. Et M. de Lipkowski, qui est chargé d'aller prendre contact avec les Chinois pour préparer le voyage de Chaban, rencontre Chou Enlai, il le racontera par la suite, et il lui explique que Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre du gouvernement français, souhaiterait venir en Chine, faire un voyage, et tout ça. Et Chou Enlai dit, ah oui, celui qui ne payait pas d'impôts. Quand on nous raconte ça au canard, on se met à hurler de rire, parce que Chou Enlai, reconnaissant les impôts de Chaban, c'est une consécration absolument extraordinaire. Et là, ça fait beaucoup parler. Et bien entendu, vous avez des tas d'imbéciles de journalistes, parce que nous avons dans cette profession beaucoup d'imbéciles, qui se mettent à dire, oui, qui a pu donner ça au canard, tout. Faire des enquêtes sur les informateurs d'un confrère, tout à fait élégant, tout à fait professionnel, tout à fait remarquable. C'est pas la première fois, par la suite, toujours un peu ça. Il y a eu des documents qui sortaient du ministère de l'Intérieur, il y a eu les écoutes téléphoniques, on a eu notre propre écoute téléphonique, on a publié des photos des camionnettes qui faisaient de l'enregistrement des micros qui étaient stationnés devant la préfecture de police. Et là, ça, là, chez Pompidou et chez ses conseillers, Marie-France Garraud et Juillet, il y a l'idée quand même, le canard, il y en a marre. Parce qu'il y avait d'autres choses, hein, je ne vais pas les énumérer, mais plein d'autres choses qui sortaient. Et donc, il y a l'idée de mettre le paquet, quoi. Cet immeuble est en travaux, on va mettre des micros. C'est complètement idiot, parce que penser que dans des salles où il y a des grands plafonds comme ça, les gens disent « Ah, je vais voir Dupont, mon informateur préféré, je vais voir Durand qui m'a donné déjà ça », ils vont apprendre quelque chose, ce qui est complètement idiot. Mais ils le font.
Oui, d'ailleurs, à quelques mètres d'ici, dans les locaux du Canard Enchaîné, il y a toujours une plaque.
Une plaque et un trou.
Et un trou où étaient cachés ces fameux micros.
Oui, où étaient cachés les câbles qui se dirigeaient vers l'immeuble voisin. Mais c'est un truc complètement fou. Et là, on a une chance terrible. En 8 jours, on sait que c'est le contre-espionnage. On a des noms, une partie des noms. On publie. En une nuit, on arrive à être sûr de notre informateur, qui est un type de la DST. Et là, ils deviennent complètement fous, parce qu'ils se disent, mais c'est pas vrai, ils sont dans la place. Ce qui est pas vrai non plus.
Que vous êtes renseigné au plus près.
Ils nous ont fait tout. Ils nous ont suivis, ils ont regardé nos comptes en banque, ils ont regardé nos déclarations fiscales, ils ont regardé notre vie privée. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est mettre de la coke dans nos voitures. Mais autrement, Pompidou, qui avait fait pratiquer des écoutes, donc sur le Canard Enchaîné, chez Mitterrand, parce que la même équipe était allée chez Mitterrand, ce qu'on a révélé aussi, il avait fait écouter Giscard, y compris dans sa voiture, parce que Giscard était un rival, bien entendu, tout en étant de son gouvernement.
Comment vous avez fait pour identifier le fait qu'il y avait des micros dans vos locaux ?
André Escarreau, qui rentrait du cinéma et qui s'occupait un peu de surveiller les travaux, passe devant l'immeuble, il voit de la lumière au 3e étage. Il dit, ah ben, ils font des heures supplémentaires, c'est bien. Il voit un flic en bas, il monte, il cogne à la porte. Le type dit, qu'est-ce que c'est ? Lui, il dit, c'est le Canard Enchaîné. Le type croit une plaisanterie, il entrebâille la porte. Escarreau la pousse un peu, il voit des fils, le parquet soulevé et un trou. Il comprend, il se tire, et il nous prévient, et à minuit, on est là avec l'AFP, avec l'Humanité, avec le Figaro, avec l'Aurore, avec... on a convoqué tous les confrères, et tout est clean, impeccable. Je dis, Escarreau, le trou, il était... Ben, il dit, il y avait un trou. Je promène ma main, puis tout d'un coup, je m'enfonce jusque-là dans le plateau frais. Et c'est comme ça que... On a découvert le trou, puis on a soulevé les lames de parquet, il y avait des fils en dessous. Et on a porté plainte, c'est la première fois que le Canard Enchaîné porte plainte. Et alors là, on a tout dit, on a dit que c'est un canular et tout, puis après, ils ont commencé à dire... Et on l'a su, on l'a publié avant même qu'ils le fassent. Mon informateur, la DST, m'a dit, ils vont vous faire le coup des espions soviétiques.
La DST, c'est le contre-espionnage français.
Oui. Et quand je sais ça, on le publie tout de suite... Ça les a pas empêchés de faire leur sale boulot, ce qui était rigolo, parce qu'on a des anciens communistes chez nous et tout, mais enfin, c'était un peu simpliste de penser qu'on était le centre d'espionnage de l'Union soviétique dans notre petite PME française.
Est-ce que vous avez subi des intimidations, Claude Angéli ?
Ben, par exemple, un jour, on m'a expliqué que nous faisions du terrorisme journalistique. Nous étions irresponsables, conservait des intérêts étrangers.
Qui vous a dit ça ?
Le nom, je ne vous le dirai pas, mais il était bien introduit dans les cercles gouvernementaux. Il y a même un ancien ministre centriste qui a dit à un de mes amis du journal, « Je sors de l'Élysée, méfiez-vous, ils sont devenus fous après vous. » C'était pendant l'affaire des diamants. Alors là, j'ai publié un article sur des affaires d'un homme d'État avec la femme qui a succédé à Madame Claude, pour faire comprendre qu'il ne fallait pas nous chercher.
Quand vous dites qu'ils ont même essayé d'aller sur le terrain de la vie privée,
oui.
Par exemple ?
Photos, dénonciations. Les pratiques des États, c'est toujours... On a tous les moyens, on a les services, on est les gens capables et tout. On peut les emmerder.
Mais parlons clairement, ça veut dire quoi, photos, dénonciations ?
Vie privée.
Suivi ?
Oui.
Photographié ?
Oui.
Et ensuite des photographies adressées à vous ?
Je n'en dirai pas plus.
En tout cas, il y avait une tentative d'intrusion.
Oui, Plusieurs chez nous ont été suivis, photographiés comme ça.
Pour déstabiliser.
Ils ne savent pas quoi en faire et ils ont les photos. Ils arrivaient à photographier les gens qui entraient et sortaient de l'immeuble. Voilà. N'importe quoi. Alors qu'il y a des gens qui habitaient l'immeuble. C'est un journal normal, des journalistes normaux qui ne se prennent pas pour des supermal. Dans leur temps, il peut y avoir un peu trop d'affect et un peu trop de contentement quand on fait un coup. Mais ça passe.
Décrivez-nous ce moment particulier où vous sortez une belle affaire, comme on dit. Psychologiquement, qu'est-ce que ça implique derrière ?
Ça m'est arrivé d'aller acheter un cigare à la civette, une fois que c'était fait.
Pour fêter ça ?
Ouais, fêter ça à moi-même.
Vous allez être rédacteur en chef du début des années 80 au début des années 2010, 30 ans.
Oui, 2012, j'ai arrêté.
Dans quelles circonstances êtes-vous devenu rédacteur en chef ?
Moi, d'abord, je ne voulais absolument pas m'occuper de gestion ni rien. Je suis incapable. Et je suis incapable d'écrire sur des choses, sur des sujets que je ne connais pas. Ce n'est pas de la fausse modestie. Hein, c'est je sais ce que je vaux, je sais de quoi je parle, point barre. Les rédacteurs en chef actuels ou passés, c'est des animateurs. C'est pas une pyramide qui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ».
Vous avez beaucoup critiqué l'autoritarisme des politiques. Ici, c'est une structure dont vous diriez qu'elle est...
Un gentil désordre.
Par exemple.
C'est sympathique, mais c'est très banal. Artisanal, bien entendu, très artisanal. Disons, il n'y a pas le mystère et le mythe que les gens mettent dans le canard. Où on pense toujours que le facteur apporte des dossiers, qu'il y a un mystérieux personnage qui vient et qui dépose une lettre avec des informations, des choses comme ça. Non, alors la mythologie, c'est vraiment hors de question.
Pourquoi on vous a choisi, vous, pour être rédacteur en chef à ce moment-là ?
Parce que justement, le rédacteur en chef du Canard, c'est pas une position indéboulonnable, rien, c'est pas... C'est... on te fait confiance, puis voilà.
Mais rédacteur en chef, c'est bien plus que cela.
C'est quelqu'un qui donne des idées de sujets. Dans la hiérarchie que nous pratiquons dans ce journal... La hiérarchie de l'information, il faut que ce qui est accessoire, qui est moins intéressant, qui n'est pas extravagant, qui n'est pas étonnant, je ne sais plus quel directeur de journal disait dans l'ancien temps « étonnez-moi ». Mais ça reste vrai. Je parle du pathétique dans l'histoire. Le pathétique dans l'histoire, ça peut être l'histoire d'un gilet jaune, ça peut être l'histoire d'un type licencié, ça peut être l'histoire d'une PME qui ferme. Parce que l'État ne payait pas ses factures. Si vous voulez, on n'est pas là pour faire pleurer, on n'est pas là pour être émotionnel, mais on est là, comme dans ce qu'on appelle, j'aime pas tellement parler anglais et tout, mais le storytelling. Storytelling, c'est raconter une histoire. Soyez bref et soyez émotionnel. C'est vrai que on peut faire la même chose dans le journalisme. Pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être se reposer les faits, les examiner. Mais cette idée d'être émotionnel, c'est pas d'être insignifiant, d'être anecdotique dans le mauvais sens du terme. C'est répondre à ce que recherche un lecteur du journal. Si un journal comme Le Canard Enchaîné n'est pas un journal vengeur, à un moment donné... Vengeur contre les imbécilités de la société, contre la stupidité de l'administration, contre les inégalités, les injustices, contre tout ce qui fait que notre vie de citoyen n'est pas conforme à ce qu'on souhaite. Mais si on n'a pas ce côté vengeur, c'est pas bon.
Est-ce que vous pouviez être dur comme rédacteur en chef ?
Non, parce que je peux être en colère et puis taper sur la table, mais ça va pas plus loin. Il n'y a pas un licenciement au bout, vous voyez, il n'y a pas... En plus, je pense que c'est bien qu'il y ait de temps en temps des engueulades. Mais des engueulades, disons, normales, où il n'y a pas un mec qui détient la massue pour dire à un type « ton article, c'est de la merde ». D'abord, c'est jamais de la merde. C'est simplement qu'il faut des fois couper et que tout journaliste a du mal à couper.
Ça a été quoi votre plus grosse engueulade ?
C'est de hurler pour que on se couche pas trop tard et qu'on m'apporte un ou deux papiers qui n'étaient pas finis. Hurler le nom d'un des journalistes pour qu'il traverse l'immeuble.
Claude Angéli, vous étiez rédacteur en chef au moment où votre journal, juste avant le deuxième tour de l'élection présidentielle entre Mitterrand et Giscard, en mai 1981, vous étiez rédacteur en chef, au moment où le journal dévoile le passé collaborationniste du ministre du budget sortant, un certain Maurice Papon.
J'ai fait une enquête à Lyon sur les bordels qui étaient protégés par le RPR du coin. J'ai voulu aller à Bordeaux parce que je savais qu'il se passait la même chose. Et j'ai connu des gens qui étaient des commerçants, et puis d'autres qui étaient d'anciens résistants, qui avaient failli être déportés. Et ces résistants que j'ai connus à Bordeaux m'écrivent et me disent « Papon, Maurice Papon, a été secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant l'occupation. Et il a peut-être fait des choses pas très catholiques. » J'ouvre le rouseau, Maurice Papon ne se cache pas. Je leur écris. C'est bizarre, il ne s'en cache pas. Puis ensuite, en 46-47, il a été nommé préfet de Constantine, tout ça. Tout. Ils me réécrivent. Oui, mais sous l'occupation, il a eu un rôle et tout ça. Bon. Et je les encourage toujours. Je dis, mais il faut des preuves. Puis un jour, ils me disent, il a aidé à la déportation des Juifs. Vous êtes sûr ? On cherche. Et un jour, ils me disent, viens. Alors moi, je dis à Nicolas Brimaud, vas-y, parce que moi, j'ai autre chose à faire. Visiblement, ils ont les documents. Et un samedi, on est tous les deux dans la maison, et Nicolas arrive, et il met sur le bureau les documents originaux qu'on a publiés sur l'aide apportée aux Allemands par Papon, qui demandait qu'on surveille les trains, parce qu'il y avait des évasions, tout ça et tout, la déportation des Juifs. Et on a sorti l'affaire, et il a fallu 16 ans pour que M. Papon soit condamné, puis qu'ensuite, pour des raisons médicales, il soit libéré. C'est dire ce qu'est la justice dans ce pays, et c'est dire pourquoi je considère que la presse n'est pas le quatrième pouvoir. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer, ou les méthodes et tout. Nous pouvons soit être le bouffon du roi, soit être un frein à toutes les initiatives détestables des pouvoirs politiques. Les volontés de l'opposition de cacher ceci ou cela. Hein. C'est pas simplement... Mais ceux qui sont au pouvoir sont les premières cibles. Et on a la possibilité de freiner. C'est pour ça que le financement des partis politiques a quand même un peu évolué, est un peu plus contrôlé qu'avant. Bon. Mais nous dire quatrième pouvoir à côté du pouvoir législatif et exécutif, et autre, non. Non. Les journalistes sont pas des surhommes.
Vous définissez la presse plutôt comme un frein. Si on poursuit la métaphore automobile, il y a une affaire sur laquelle vous n'avez pas embrayé. C'est celle de Mazarine Pinjot. Vous vous êtes mis comme règle de ne jamais évoquer la vie privée, y compris pour la fille cachée du président Mitterrand à l'époque, alors qu'il y avait une question de fonds publics et de rapport à la vérité en jeu.
Mais là, on a eu tort. On a eu tort parce qu'à un moment donné, il y avait des fonds publics. Sa mère et elle, pour des raisons, disons, de protection du terrorisme, parce que Mitterrand était très protégé à l'époque, elles ont été hébergées dans des appartements qui appartiennent à l'Élysée. Puis ensuite, il y avait effectivement les voyages, des choses comme ça. Et on était bloqué un peu pour les questions de vie privée.
Vous saviez ?
Ah bon, on savait, oui, mais tout le monde savait. Tout le monde savait. Il n'y avait qu'un journal qui en parlait, c'était Minute.
Extrême droite.
Extrême droite, à cause des Dernaliers qui voulaient faire un livre. Lui raconter des choses abominables sur Mitterrand, sur le sperme sur les fauteuils et tout, oui, bon. Bon, tout ça nous bloquait un peu, quoi, mais...
Vous avez hésité ?
Non. Non, mais c'était le tort de toute la presse.
A posteriori, vous dites qu'il aurait fallu, dès qu'on l'a su...
Non, et dès qu'on l'a su, on aurait dû parler, mais c'était en même temps parler, ah tiens, Mitterrand a une fille, et il a un deuxième ménage, mais alors... Pourquoi ne pas parler des maîtresses de Chirac ? Qui couche avec qui ? On ne peut pas faire une rubrique dans ce... Tout ça est gênant. Si ça interfère en politique, oui.
Vous avez peut-être lu ce livre qui est assez sévère avec Le Canard Enchaîné, un livre d'enquête signé des journalistes Karl Lasqueux et Laurent Valdiguier, qui s'appelle Le vrai canard, et qui affirme par exemple que vous avez plutôt défendu Roland Dumas, proche de Mitterrand, dans l'affaire Elf, parce que c'était aussi l'avocat du journal du Canard Enchaîné.
Sur Roland Dumas, il y a eu des discussions. Il a été l'avocat du Canard. Moi, j'étais pour qu'on sorte les choses comme on devait les sortir. On en a sorti quelques-unes. On n'a peut-être pas été assez dur, mais on a sorti des choses.
Sur la plupart des affaires qu'on a évoquées ensemble jusqu'ici, Claude Angéli, il vous a été reproché parfois d'être un peu plus gentil, un peu plus indulgent avec la gauche, sous la gauche.
On nous a reproché ça. Moi, j'ai eu une réponse. On a sorti l'affaire Carrefour du Développement.
Sous François Mitterrand.
Sous François Mitterrand. Et personne ne l'a fait avant nous. Les autres ont bondi après. Deuxièmement, on a sorti l'affaire de la vente de Vibrachoc. On a dû sortir d'autres affaires sur Mitterrand. On n'a pas été tendre avec lui sur l'affaire du Rainbow Warrior. Mais qu'est-ce qui a empêché le Figaro, d'autres journaux de droite, de remplacer le Canard sur ça? Il ne sortait pas d'affaire.
La Francisque de Mitterrand, cette décoration obtenue sous Vichy, ce n'est pas non plus le Canard qui le sort. C'est un regret, c'est que vous n'avez pas assez fouillé, vous n'avez pas assez cherché?
Non, c'est pas, parce que la Francisque est arrivée tard, quand il était déjà presque rentré en résistance. Alors, on ne savait pas à quel point il avait été mêlé. C'est Péan qui, d'ailleurs, en publiant des photos et tout...
Pierre Péan.
Oui, Pierre Péan a sorti dans un livre. Non, on n'a pas cherché assez quand Mitterrand était candidat. C'est évident. C'est négligence, hein, c'est pas... On n'est pas lié à Mitterrand, mais négligence.
Est-ce qu'au fond, vous n'aviez pas tellement envie que Giscard soit battu que vous n'avez pas beaucoup cherché sur ses adversaires?
Non. Non. Non, mais c'est une négligence. Après, d'ailleurs, à chaque élection présidentielle, on a fouillé tous les candidats. La vie de tous les candidats et leur passé. Non, non, qu'on a été complaisant, c'est possible. Mais qu'est-ce qui empêche les autres journaux d'être beaucoup plus brutaux?
Vous disiez que vous avez ensuite toujours enquêté sur le passé des candidats à la présidentielle. En janvier 2017, le Canard Enchaîné, Claude Angéli, publie un article sur l'épouse de François Fillon et des soupçons d'emploi fictif, ce qui va entraîner une longue polémique et la mise en examen du candidat au cours de la campagne, alors qu'il était le favori des sondages à ce moment-là. Est-ce qu'avec le recul, Claude Angéli, parfois vous vous dites « Le Canard Enchaîné a tout simplement changé le nom du président de la République française ?»
Oui. Oui, mais on n'y peut rien. Vous allez me faire regretter que Macron soit au pouvoir. Mais on savait tout ça. Est-ce qu'on ne devait pas le sortir? C'est invraisemblable. Le journal ne peut pas garder des informations pareilles. Fillon aurait sans doute gagné. Sans ce qu'on a sorti. Il aurait sans doute gagné. Et c'est Macron qui a gagné. On se régale. On n'a pas l'impression de trahir notre métier, là, au contraire. On sait quelque chose, on ne le garde pas.
François Fillon affirme que la presse a été instrumentalisée.
Il a promis d'apporter des preuves, il a promis de faire des procès et tout. Il n'a rien fait. Ni nous, ni contre le journal du dimanche, ni contre Libération, ni contre les autres journaux qui ont parlé.
Malgré tout, c'est une bonne question qui est posée. C'est comment faites-vous pour ne pas être instrumentalisé?
Écoutez, moi je sais comment ça s'est passé, comment notamment Christophe Nobili a eu les informations. Et quand on sort l'affaire, Fillon ne le dit pas à ses petits camarades, mais ils sont estomaqués. Et alors il répond en disant « Mais mon fils et ma fille ont travaillé pour moi comme assistant parlementaire. On ne le savait pas. Rebelote, mes petits camarades vont à l'Assemblée, on sort les salaires des deux enfants, on apprendra par la suite qu'il leur a demandé de rembourser. C'est médiocre. C'est pas du niveau de Chirac, qui a enrichi son parti et a enrichi sa famille considérablement, mais il ne fallait pas être président de la République.
Mais plus largement, comment on fait quand on est journaliste au Canard Enchaîné pour être sûr de ne pas être instrumentalisé quand on reçoit des informations?
Ben, on les reçoit comme ça, vous savez où vous les avez. C'est pas anonyme, c'est pas du courrier, c'est pas le téléphone. Vous savez qui vous avez en face. Bien entendu, il peut y avoir un intérêt. Pour Carrefour du Développement, il m'a apporté des fausses factures. Mais je lui ai dit, mais si je publie ça, vous allez en taule. Il m'a dit, ben oui, mais je préfère maintenant que plus tard, parce que ça serait plus grave. Ben, j'ai sorti l'affaire, il était en taule.
Donc il y a toujours un intérêt chez l'informateur.
C'est possible. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça doit être dit?
Évidemment, il y a la question de la preuve. Est-ce qu'il vous est arrivé, Claude Angéli, d'avoir une conviction intime sur un dossier? Vous êtes sûr que cette affaire-là est vraie, vous avez enquêté, mais il vous manque la preuve irréfutable et donc vous ne publiez pas?
Quand il y a l'affaire des micros, j'ai aucune preuve, je publie. Quand, en 2010, j'ai publié que Sarkozy supervisait l'espionnage des journalistes, je n'ai aucune preuve, aucun document. Je sais, et je sais quels journalistes sont victimes et tout ça, et certains viendront déposer d'ailleurs devant les magistrats.
Comment vous pouvez savoir sans preuve?
Ben, je peux savoir parce que j'ai confiance dans quelqu'un qui me parle. Aucune preuve écrite. Je sais que c'est vrai parce qu'il y a eu des affaires, des journalistes qui ont été écoutés. Il y a eu le point, on a perquisitionné, on a pris un ordinateur. Il y a un journaliste du Monde dont on a visité l'appartement et puis on a piqué un ordinateur, tout ça. Et ça, c'est le renseignement intérieur, hein. C'est pas autre chose. Je sais tout ça. Et à un moment donné, je me dis, on y va, parce que on est dans l'ambiance actuelle et j'aurai le soutien. Alors, Scorsini va porter plainte contre nous.
Qui était le patron du renseignement intérieur.
Oui. Et on est condamné à 800 euros avec sursis et à donner 2000 euros à M. Scorsini. On va en appel, on gagne. Il va en cassation, il gagne. On repasse en appel. À nouveau, nous sommes condamnés à 800 euros avec sursis. On va en cassation et on gagne. Donc 6 ans, un pouvoir qui a emmerdé la justice pour une affaire qu'il va perdre contre nous, qui même si on avait été condamné avec 800 euros avec sursis, tout le monde rigole, quoi.
Le jour où vous décidez de publier ce papier, Le Canard Enchaîné boucle chaque semaine le mardi,
oui.
Vous avez quand même un peu peur au fond de vous ?
Non, absolument pas, parce que je sais trop de choses. Puis je connais Scorsini, je veux dire, bon, tout ça, on sait bien les magouilles qu'il peut y avoir, les fadettes, c'est-à-dire les petites factures des téléphones des journalistes que l'on fait sortir et que, pour retrouver avec qui ils parlent, tout ça, non. Et à un moment donné, il faut savoir prendre une responsabilité. Je suis rédacteur en chef encore, là. Et personne ne sait que je vais sortir ça, y compris là. Et je le sors, ça sort.
L'affaire Cahuzac, l'affaire Big Malion, l'affaire François de Rugy, leur point commun, c'est qu'elles n'ont pas été sorties par Le Canard Enchaîné, avec la concurrence de nouveaux acteurs de l'investigation, notamment sur le web comme Mediapart. Comment vit-on cette période de mutation quand on est journaliste au Canard Enchaîné? De tout cela, on parlera dans le 4e épisode. Claude Angéli, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Frédéric Saïs avec Claude Angéli. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Sandrine Malon, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.